Ah ben, j'ai pas d'avis sur la question. Ben, je dois vous le dire quand même, ça peut vous surprendre, j'ai pas d'avis. Sur la dernière polémique dont vous venez juste de me parler, c'est compliqué parce que vous me la prenez en fait. Sur le dernier spectacle de tel humoriste, je sais pas quoi vous dire, je l'ai pas vu en fait ce spectacle, donc ça va être difficile de faire un débat ou même de nourrir un débat. Sur le tweet de tel homme de télé, je vais vous la faire courte, je sais pas. Et au passage, j'ai pas d'avis non plus sur ce fait divers qui fait l'actualité parce que j'ai pas le dossier de l'instruction en fait. Et le tweet de Pamplemousse 44, ça n'est pas le dossier de l'instruction, c'est un tweet. Donc ça suffit pas pour avoir un avis, même si au demeurant Pamplemousse 44 est une personne sympathique a priori, parce que là aussi je la connais pas ou je le connais pas, je sais pas, ou j'ai pas d'avis sur la question, même si j'en ai un. Je vais vous dire un truc, je vais le garder pour moi d'abord parce qu'il peut changer mon avis à mesure que j'apprends des choses. Et puis si je suis complètement honnête avec vous, quoi que je pense, ça va rien changer, donc je vais m'abstenir en fait, d'autant qu'il y a plein de choses qui ne me concernent pas, qui n'ont rien à voir avec moi. C'est difficile d'être pour ou contre dans ces choses là et je préfère me taire dans ce cas là en fait. Je vois même pas pourquoi je vous donnerais mon opinion, à part pour me mettre en avant, mais honnêtement, j'en sortirais même pas gagnant. C'est une vraie question aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on pense que son avis est intéressant ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel avis est donc mon invité d'aujourd'hui ? Humoriste, volontiers grinçant, observateur amusé, attentif de notre société. Il est aussi réalisateur. Après Casse Départ, Les Crocodiles du Botswanga et Coexister, son quatrième long métrage, Barbac, sort demain. C'est l'histoire d'un couple de bouchers au bout du rouleau qui, pour sauver leur amour et leur boutique, se lancent dans un curieux commerce, la viande humaine, en l'occurrence la viande de militants véganes. C'est une comédie complètement barrée, aux accents horrifiques et romantiques. Bonjour Fabrice Eboué.
Bonjour Monsieur Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, parce que c'est important quand même, sur quoi n'avez-vous pas d'avis, vous ?
Oh, écoute, il y a eu une grande conversation de famille là ce week-end et je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire sur la question. C'était sur le changement d'heure. Je sais pas si c'est le dernier ou pas prochainement. Et il y avait une grande question sur l'influence du changement d'heure sur nos enfants, sur nos vies, etc. Et là, je me suis aperçu que moi, je n'avais absolument rien à dire là-dessus. Je ne sais pas si une heure de plus, une heure de moins chamboule mon existence ou celle de mon fils. Donc j'ai préféré fermer ma gueule. Mais c'est vrai que c'est amusant. À quel point je pense qu'il y a des chroniqueurs qui vont venir sur certaines chaînes de télévision nous expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, mais il faut vraiment des spécialistes et je n'en suis pas un.
Voilà. Et pourquoi, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui il semblerait qu'il faille justement avoir un avis sur tout, se prononcer constamment pour ou contre ? Qu'est-ce que ça traduit d'aujourd'hui pour vous ?
Qu'est-ce que ça traduit d'aujourd'hui ? Bah c'est surtout à mon avis le réflexe des réseaux sociaux. Hein. Si tu regardes bien l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est le bistrot. Et le bistrot du village, c'était formidable. On se retrouvait tous là-bas pour donner un petit peu son avis sur tout n'importe quoi. T'avais un idiot du village dans chaque bistrot. Et tout ça se passait très bien parce que tout ça était séparé. Et puis un jour, grâce aux réseaux sociaux, tous les bistrots du village ont pu se connecter. Et là, à mon avis, c'est devenu une force.
Mais c'est-à-dire qu'il y avait Pamplemousse 42, 44 et 46.
C'est exactement ça. Et quand ils ont pu se connecter, ils se sont aperçus que même si leur avis c'était que de la merde leur avis a compté aussi, et tout le monde s'est dit, mais moi aussi je peux avoir un avis qui compte et trouver d'autres idiots comme moi qui ont le même en plus, donc c'est formidable.
Et surtout avait la même valeur que l'avis d'un prix Nobel, c'est la grande phrase d'Umberto Eco. Mais il y a aussi cette tentation du repli, Fabrice Eboué, cette envie toujours d'appartenir à un groupe. J'ai l'impression que ça c'est au cœur de votre réflexion en tant que réalisateur et en tant qu'humoriste.
Ouais, c'est bien vu, et c'est totalement antinomique me concernant parce que je suis métisse. Mon père est arrivé du Cameroun dans les années 70. Il se marie avec ma mère en 74 dans le pays d'Auge. C'est pas des comédies. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu là, je le dis souvent, pays d'Auge, années 70, quand ma grand-mère maternelle croise mon père, elle a pas venu de noir depuis les GI noirs américains du débarquement. Donc limite, elle regrette les Allemands. Hein. Pour elle, c'est un cataclysme. Faut penser, hein, la famille de Douala qui arrive à Beaumont-en-Auge, petit village sauvegardé normand, c'est quelque chose. Donc moi, je me suis construit vraiment sur deux cultures qui se rencontrent et le communautaire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que pour moi, la vie, c'est la curiosité et la rencontre.
Et ça génère, surtout, c'est ce que vous montrez, j'ai l'impression, des comportements de plus en plus extrêmes, en fait, des avis de plus en plus tranchés.
Oui, exactement, c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. Surtout, ça empêche, et en tant qu'artiste, pour moi, c'est inconcevable, ça empêche la réflexion personnelle. On est obligé de penser comme le groupe. Et ça, c'est terrible. Et ça existe depuis très longtemps. Il y a les politiques qui pensent comme leur groupe politique. Mais aujourd'hui, comme tout se communautarise, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune démarche de réflexion personnelle, plus de démarche de réflexion singulière. On pense comme son groupe.
Alors moi, je vais vous mentir, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans votre travail, cette façon de se nourrir de comportements extrêmes, radicaux quels qu'ils soient. Dans Barbac, par exemple, vous riez autant des militants véganes que des bouchers industriels. Et c'est peut-être ça qui fait l'intérêt aussi.
Et c'est ça qui fait que... Pourquoi j'ai voulu présenter les choses de cette façon, c'est que dès que, par exemple, on a aujourd'hui en télé ou autre des débats sur cette question, ils te mettent un militant végane totalement hystérique face à un boucher complètement fermé, complètement bourru, donc il n'y a pas de débat. Et le drame de nos sociétés, c'est cette absence de débat. Alors que moi, quand on m'a appris à faire mes premières rédactions au collège, on m'a appris à faire thèse, antithèse, synthèse.
Pour autant, Fabrice Eboué, à quoi on s'expose en tant qu'humoriste, en tant que comédien, en tant que réalisateur quand on rit des extrêmes?
Ah bah on s'exprime aux fameuses réactions des groupes dont j'ai parlé, qui refuseront de toute façon, puisque c'est une pensée unique, un groupe qui refuseront la curiosité, qui refuseront d'aller voir, et qui vont anticiper ça en commençant d'abord à défendre non seulement leur groupe, mais leurs intérêts, puisque leurs intérêts ils sont à plusieurs niveaux, ils peuvent être politiques, ils peuvent être financiers. Donc dès qu'ils se sentent moqués ou autres, caricaturés, alors que c'est notre travail, ils réagissent de manière très violente.
Mais c'est cette idée d'offense qui m'intéresse particulièrement. La dernière fois, quelqu'un s'est senti offensé par votre humour. C'était quand? Et c'était à quel sujet?
Oh bah j'ai plein de sujets. Là, en l'occurrence, sur Barbac, j'en reçois plein des messages de véganes qui n'ont pas vu le film, évidemment, et qui pensent systématiquement que c'est contre eux, que c'est un film contre. Alors, c'est pas un film contre, c'est un film où on parle de certaines choses qui les concernent, évidemment, mais ce n'est pas un film contre. J'ai fait une avant-première, d'ailleurs, à Strasbourg, il y a quelques jours. La première question après le film, ce n'est pas une végane qui a parlé, c'est une bouchère. Et cette bouchère m'a dit...
Elle était furax,
me dit, vous donnez quand même une mauvaise image des bouchers. Et elle rajoute, moi je ne connais aucun boucher qui vend de la viande humaine. J'ai dit, heureusement madame. Donc le ridicule est partout. Hein.
Qu'est-ce qui vous offense, vous, dans la vie, Fabrice Eboué?
Mais justement, moi je crois que ce qui me tue, c'est le manque de curiosité. Le manque de curiosité vis-à-vis de l'autre. Et toutes ces barrières communautaristes dont on parle aujourd'hui, c'est le manque de curiosité.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus extrême chez vous, puisqu'on parlait de ça, des extrêmes?
Ah bah, j'ai ma forme de radicalisme aussi, ne serait-ce que dans mon métier, et je crois que cette communauté du rire de tous en est une aussi. On essaye de défendre ça, mais c'est forcément une forme de radicalisme, c'est une forme de protection, mais on doit accepter à des moments qu'il y ait aussi une sensibilité chez tout un chacun.
J'ai cru à un moment donné que comme cette bouchère, vous alliez me dire, bah, c'est mon goût pour la viande humaine, Augustin. Et c'est quand même intéressant, parce que dans ce film, vos personnages transgressent un tabou fondateur en consommant cette viande humaine. Et tout ça pour survivre. Je me suis demandé jusqu'où seriez-vous prêt à aller, vous, pour sauver votre peau? Que seriez-vous prêt à oser, Fabrice?
On parle au premier degré, réellement. Ah, pour est-ce que je serais capable, par exemple, d'aller manger de la viande humaine ou autre? je sais pas, mais je crois qu'on sauve beaucoup dans cette comédie, dans ce film. D'abord, on sauve un couple, on sauve l'amour. Donc, par amour, je crois qu'on est prêt à beaucoup de choses.
Mais surtout, on ose. C'est ça qui me fascine. En quoi la survie d'un art comme le cinéma dépend justement de la capacité de réalisateur et de réalisatrice à oser, justement?
Ah bah là effectivement, si on parle de cette survie-là, en 2021, on le sait, d'abord il y a l'avènement des plateformes, quand une offre illimitée aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions, il y aura de plus en plus de plateformes, et on vient de passer, on ne sait pas si c'est terminé, mais 2 ans de Covid, qui ont poussé l'homo sapiens à rester dans son canapé encore plus, à s'habituer à cette forme de consommation. Le cinéma aujourd'hui, je crois que c'est moins 40% de fréquentation par rapport à il y a 2 ans, et il faut bien le dire, si nous, en tant que réalisateurs français, on n'ose pas, on n'a pas des propositions qui vont un peu plus loin que ce qu'on voit classiquement en comédie ou autre, on est mort, parce que les gens vont dire, pourquoi je me déplacerai? Est-ce que c'est un événement supplémentaire par rapport aux 1 million de propositions que j'ai sur mon ordinateur?
Ça veut dire que la survie du cinéma, elle se fait uniquement dans une forme de radicalité, là, pour le coup?
Mais bien sûr, mais moi j'en suis persuadé. Alors, il y aura toujours les grandes marques, les grandes sagas qui vont fonctionner, mais autour de ça, pour exister, c'est effectivement, et le terme est juste, il faut oser, il faut regagner cette liberté du cinéma français. français qu'on a eu. Moi, je suis un grand fan du cinéma français des années 70, des Joël Seria, on peut en citer beaucoup, La Grande Bouffe m'a inspiré pour ce film, etc. Mais il y avait une liberté, il y avait une singularité, il y avait un ton. Les plateformes, c'est génial parce que l'offre est illimitée, mais il faut aussi tirer son épingle du jeu et garder une véritable entité.
Vous savez qu'il y en a une qui n'ose pas du tout dans cette émission. J'espère que vous la connaissez, Fabrice, c'est la culture. Et son actualité poltronne, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 26 octobre ?
Mais moi, je fais partie des gens que les livres ont pas seulement consolé, que les livres ont sauvé.
Et de deux, après le Landerneau des lecteurs, Clara Dupont-Mono a reçu hier le prix Femina pour son roman S'adapter, paru chez Stock, chronique bouleversante de l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille des Cévennes. Dans la catégorie étranger, les dames du Femina ont sacré l'écrivain turc Ahmet Altan pour son lumineux Madame Hayat, publié chez Actes Sud. Et enfin pour les essais, c'est à Nicoen Solal qui emporte la mise, grâce à son livre Enquête, un étranger nommé Picasso chez Fayard. La saison de remise des prix, c'est bien parti.
Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ?
C'est parce que je connais l'ouvreuse.
Ah oui, les relations, ça sert.
C'est la classe à Carpentras. La Cité Provençale inaugure aujourd'hui la troisième édition de son très original festival de courts-métrages. Carpentras fait son cinéma. Le concept, imaginé par Patrick Chen, le président de la manifestation, 5 équipes de cinéastes amateurs ont 84 heures pour tourner dans les rues de la ville des fictions de 8 minutes 40. Au terme de ces 3 jours et demi de course, un jury visionne et départage tous les films pour en élire le meilleur. Clap de lancement ce soir, 20h.
Disrespect me. Tell me I'm older. Tell me I'm slower. Tell me I can no longer fly. I want you to.
Chaussures à son pied, des baskets de Michael Jordan se sont envolées ce week-end chez Sotheby's pour atteindre $1,500,000 aux enchères. Paire iconique de Airships blanches et rouges, vues au pied de la légende des Chicago Bulls en 1984, elles deviennent les chaussures de sport portées en match les plus chères de l'histoire. En revanche, elles ne battent pas le record du monde détenu par la paire de Nike Air Yeezy One de Kanye West, adjugée en avril dernier pour $1,800,000. Et enfin, Genesis généreux. Le groupe culte de Phil Collins vient d'annoncer 2 concerts exceptionnels en France en mars 2022. Après de multiples péripéties, reports, pandémies, Genesis vient en effet d'entamer sa grande tournée d'adieu baptisée The Last Domino. Le tour qui propose de s'enjailler une dernière fois sur les tubes comme Mama, Invisible Touch ou I Can Dance passera donc par Paris à la Défense Arena pour 2 soirées triomphales. Ouverture de la billetterie dès demain, c'est trop bien. Le réalisateur et comédien Fabrice Eboué, invité de Boomerang ce matin pour Barbac, ce film qui joue de différents codes et notamment ceux du cinéma horrifique. Quand vous pensez à cinéma en particulier, quelles images vous reviennent tout de suite à l'esprit, Fabrice ?
Je suis pas forcément un grand amateur de films d'horreur. J'ai un film totalement culte, moi, qui est C'est arrivé près de chez vous. Je sais pas si on peut parler de film d'horreur, c'est un film de genre absolu qui avait été fait en 1991 par des étudiants en cinéma et c'est ça qui rend ce film encore plus savoureux. Il est fait avec des très peu de moyens, mais c'est évidemment Benoît Poelvoorde pour moi à son apogée. Alors c'est un peu dur de dire ça, c'est son premier film, il y a eu beaucoup de belles choses après, mais c'est évidemment toute sa verve, toute son improvisation dans toute sa puissance. Moi, c'est un de mes films cultes.
On va faire un tout petit extrait là maintenant.
Avec grand plaisir.
Allez, on y va.
C'est les briques rouges.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Mmh. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges.
Qu'est-ce qu'il ose, ce film, justement?
Oh bah là, on était au-delà de tout. Moi, je me souviens, j'ai 14 ans quand je réussis à le récupérer en VHS à l'époque, et je contamine toute ma classe de seconde, de lycée, je crois, en leur filant la cassette, et puis on se le mate dans les salons. Ma mère nous a surpris un jour en train de regarder une des scènes les plus gore, où ils vont abuser d'un pauvre couple en train de copuler, puis les éventrer ensuite. Je suis désolé pour les auditeurs un peu sensibles, mais tout est théorisé, tout est... Alors, on est vraiment dans une liberté. Le cinéma belge, d'ailleurs, ose peut-être plus que le cinéma français. Mais là, non, moi, c'est un film qui est fondateur parce qu'il est complètement à côté de tout. J'adore aussi le mode docu-fiction. Mais c'est pour ça que j'ai essayé d'en refaire aussi après. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup inspiré pour la suite et pour le fait, effectivement, d'être sans limite.
Et quel film est-ce qu'on regardait dans La Famille Éboué quand on était petit, justement?
J'ai une formation très particulière. Je parlais de mon père camerounais au départ. Et vous savez, mon père a été élevé au Cameroun chez les jésuites à l'époque. Et puis c'est une culture également très pudique. Donc j'avais interdiction de la moindre scène de sexe. Et quand je dis moindre scène de sexe à la télévision en famille, c'était le moindre bisou. Et mon père râlait et changeait la chaîne immédiatement.
Par contre, l'horreur, le gore, ça en avait le droit, Fabrice.
Par contre... Et il en était fan absolu, mais comme beaucoup d'Africains de l'époque, c'était les films de Sergio Leone. Parce que les films de Sergio Leone, on était garantis à tous les coups quasiment, faudrait tous les refaire, mais il y a zéro scène de sexe ou de bisous. Contrairement au western plus traditionnel, le John Wayne, il y a toujours l'héroïne à la fin se fait embrasser. Pas dans les Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand. Mais ce qui est paradoxal, effectivement, vous regardez Le Bon, la Brute et le Truand, c'est d'un film d'un sadisme et d'une violence inouïe, surtout qui me faisait regarder ça. Moi, j'avais 9-10 ans, donc peut-être que ce goût du gore me vient de là.
Cela dit, ça pose une question intéressante, Fabrice Éboué, dans quelle mesure le cinéma est là aussi pour nous mettre sous les yeux des images qu'on n'a pas forcément envie de voir, de nous montrer ce qu'on veut pas voir, de possiblement nous faire détourner les yeux, parce que c'est ce qui se passe quand on regarde Barbac à certains moments.
Ouais, il y a des gens qu'on moi je le vois pas comme un film gore, hein. Pour moi c'est une comédie romantique, puis il y a quelques endroits effectivement où il y a un peu de sang. Forcément, il fallait rendre la réalité de
Disons que la découpe des corps, on va pas se mentir, Fabrice, c'est pas pour tout le monde, quoi.
Oui, d'accord. Effectivement, il est interdit au moins de 12 ans, ce film. Mais ça fait partie du... On parle d'un couple de bouchers, on parle de véganes qui sont découpés. Ça m'amuse parce que vous savez que, paradoxalement, c'est TF1 qui est partenaire de ce film. Et généralement, ils subventionnent les films en lisant le scénario. Et ils m'ont dit, mais toutes ces scènes, ce sera filmé comment? Je leur ai dit, vous inquiétez pas, tout sera suggéré.
Tu es un gangster, en fait.
Bah écoutez, on est obligé de faire comme on peut pour obtenir ce qu'on veut, quoi.
Qu'est-ce qui, au cinéma, vous donne envie, vous, de détourner les yeux, Fabrice Éboué?
Oh, j'ai des films qui m'ont. Je crois que le film qui m'a mis vraiment mal à l'aise, c'était le film Irréversible de Gaspard Noé.
Avec cette grande scène de viol.
Ouais,
hein.
Dans un tunnel, filmé vraiment très longue. Non, moi j'ai des choses qui me mettent mal à l'aise. Après, moi, Barbac, c'est pas un film qui met mal à l'aise. On va plutôt faire. Il y a eu des films. Il y a un film que j'adorais, Grave, qui parle de cannibalisme aussi.
De Julia Ducournau.
Voilà, que j'ai adoré. Mais il y a des scènes, moi, qui me mettent profondément mal à l'aise dans ce film. Moi, c'est pas ce que je recherche dans Barbac et c'est pas le cas.
On parlait de votre enfance. Est-ce qu'on écoutait Brassens chez vous?
Oui, on l'écoutait toute la journée. Mon père est un grand amateur de Brassens. Je sais qu'il a même eu l'occasion de le voir à la faculté de Caen quand il était étudiant en médecine là-bas. Donc oui,
qu'est-ce qu'il incarnait du point de vue de l'écriture, peut-être aussi, Fabrice?
Oui, et puis on a parlé de Cet arrêt près de chez vous. C'est l'auteur absolu. C'est incroyable parce que autant vous prenez, moi, je suis aussi un grand fan de Brel. Brel a peut-être les plus grandes chansons du répertoire francophone, mais Brassens qui en a aussi. À chaque morceau, c'est tellement juste en termes d'écriture.
Alors ça,
quoi.
C'est passionnant, la justesse. Une comédie bien écrite, une comédie juste, ça tient à quoi?
On est totalement d'abord et encore plus dans la comédie. Il y a plus de liberté dans le film d'auteur, mais dans la comédie, on est quand même astreint à un canevas. Et moi, pour moi, une bonne comédie, je suis très bon élève quand il s'agit d'écrire mes 1h30, de me dire à 15 minutes il doit se passer ceci, à 45 minutes c'est cela, la conclusion arrive, mon acte 3 arrive à ce moment-là. Et pour que les ressorts de la comédie marchent bien, mais ça vient depuis la nuit des temps, quand vous lisez des bouquins là-dessus, c'était déjà les conteurs africains utilisent exactement les mêmes méthodes d'acte 1, acte 2, acte 3.
En revanche, il faut tout éclater à l'intérieur.
Mais il faut tout éclater, et moi j'ai un canevas, j'irais très traditionnaliste dans mon écriture, mais à l'intérieur, j'essaye d'être le plus baroque possible.
On va reparler évidemment, Fabrice Éboué, juste après un titre de Brassens que vous avez choisi, un titre de 1952 qui s'appelle La mauvaise réputation. Pourquoi ce titre?
Oh bah, je crois que tout est dit dans le morceau, effectivement. Les braves gens n'aiment pas qu'eux, en suivre une autre route qu'eux. Tout est dit, mais c'était beaucoup plus l'état d'esprit de l'époque, quoi. On essayait d'être différent. Aujourd'hui, c'est tellement difficile d'exister, justement. On revient à ce qu'on disait au départ. Sans un moule, sans une communauté, oui. On a peur. Et c'est pas de l'individualisme, ou en tout cas, pour moi, si vous voulez, Il y a certaines personnes qui vont vous dire je suis un individualiste, je suis pas contrôle social, c'est pas chacun pour sa gueule, c'est que je pense que la beauté de notre société, c'est additionner les individus et c'est pas qu'ils soient les mêmes dans une communauté à penser tous pareil.
Alors c'est bien d'avoir mauvaise réputation, à vous entendre.
Oui, c'est jouissif, aimer être détesté.
Vous l'êtes, vous pensez?
Je crois que depuis l'école, j'ai toujours aimé être détesté. Mais il faut aussi, vous savez, c'est amusant. J'ai un point commun avec le président Emmanuel Macron.
Oh.
D'abord, on est né la même année.
Bien.
Et on a été à la même école.
Oh.
J'ai été renvoyé 7 fois. Pour vous dire déjà, la mauvaise réputation, j'ai été renvoyé 7 fois et j'attirais.
Mais ça veut dire que vous étiez dans la même classe?
Alors, je vais vous expliquer parce que moi, on me met au bout d'un moment en région parisienne. Ma mère, qui est pourtant professeure d'histoire géo, la pauvre, appelle tous ses collègues, ses amis, il n'y a plus de place, on veut plus de moi. Et finalement, elle me trouve une place à l'internat, donc pour m'éloigner un peu de la région parisienne, au lycée La Providence à Amiens, en seconde. Et donc, je suis à l'internat et je suis dans la même chambre que quelqu'un que je salue, on peut citer son nom parce qu'il le sait, qui s'appelle Charles Cure. Et Charles Cure, c'est mon compagnon de chambrée. L'année juste avant, on est de la même année, je précise, avec Macron, l'année juste avant, son compagnon de chambrée, qui lui avait un an d'avance,
ah, c'est ça.
C'était Emmanuel Macron. Moi, j'avais un an de retard, à force d'être envoyé. Donc, mais il a fait le lien entre les deux. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, je savais que tous les deux, vous allez avoir un destin un peu particulier, mais pas du tout dans le même domaine.
Cela dit, la mauvaise réputation, ça touche tout le monde. Hein. Georges Brassens, ouais. 1952, vous êtes sur France Inter, avec Fabrice Eboué. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Il y a du médecin de famille, il y a de l'écrivain exilé dans le Perche pour profiter du grand air, du calme et du vert. Puis il y a du serial killer, on va pas se mentir, le sourire figé, l'œil soupline, l'allure verveine. Tout en calvitie, ce matin, le réalisateur Fabrice Eboué, invité de Boomerang, pour Barbac, son nouveau film en salle demain, un film qui est somme toute assez différent de vos précédents dans la mesure où c'est la première fois que vous traitez d'un sujet qui ne porte pas sur l'identité. Moi, ça me paraît quand même assez intéressant. Diriez-vous que c'était un besoin de votre part, aujourd'hui, précisément?
Bah, c'était essayer de sortir un peu de mes vieilles marottes.
Particulièrement à la veille d'une élection présidentielle.
Oui, peut-être. Mais c'est surtout quand je vous dis sortir de mes vieilles marottes. Il y a un réalisateur dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, David Simon, qui a réalisé cette série brillante The Wire sur la politique et les rues de Baltimore.
Si vous voulez garder des amis, il faut l'appeler Simon, par contre, ouais. Parce que c'est vraiment un autre pays et une flamme, quoi.
Effectivement. David Simon. Et il a dit le travail d'un artiste, c'est de déplaire à son public, et ça je trouve ça fantastique, c'est-à-dire se mettre en danger en permanence et ne pas être sur des rails et sur des évidences.
Mais alors quand il n'y a pas de public au départ, à l'origine de Casse Départ, votre premier film qui traite de l'esclavage, il y a quoi? C'était il y a 10 ans, c'était une époque où on en parlait peu.
Ouais, c'était une époque où on en parlait peu. C'était déjà, en tout cas, chercher des sujets intéressants. Alors, beaucoup de gens ont parlé de l'esclavage, mais et on pourra revenir sur Barbac après, mais le vrai sujet de Casse Départ, c'était traiter de la négritude de deux frères qui voient les choses différemment. Et pour traiter de la négritude au mode présent, on repassait par un passé bien plus trash, bien plus douloureux. C'est pas un film sur l'esclavage, c'est l'erreur que beaucoup ont fait en pensant. Alors après, mais l'intérêt de la comédie, par contre, c'est que vous pouvez rassembler beaucoup de gens dans les salles qui vont... Après, effectivement, j'ai toujours regretté que derrière, il n'y ait pas eu de réel film, moi, sur l'esclavage.
Mais c'est ça. Mais quelles histoires est-ce que vous aviez envie de raconter au début?
Sur Barbac ou sur Casse Départ?
Non, dans votre métier de réalisateur, en fait, quand vous avez commencé à réaliser des films.
Mais je crois qu'au début, et je crois que c'est indispensable, on a envie de parler de soi, on a envie de parler des gens qu'on aime, des gens qui nous entourent, et Casse Départ, c'est ça. C'est pour ça que derrière, ensuite, je fais le crocodile du Botswanga pour parler un peu d'Afrique, etc. Tout ça, c'est des choses qui me touchent. Et il est réel que dans Barbac, pour le coup, c'est un sujet qui peut sembler plus éloigné de moi. J'ai pas de boucher dans ma famille. Je viens d'une famille de gynéco, donc le sang, vous voyez, moi, je connais mieux peut-être. Mais pour le coup, j'ai pas de boucher dans ma famille.
D'anthropophage.
ni d'anthropophage, voilà. Et puis le végan... Alors, est-ce que le véganisme est un sujet identitaire aussi en soi? Peut-être, parce qu'aujourd'hui, on peut s'identifier par plein de choses, par ses origines, par sa sexualité, par sa façon de consommer. Donc, il y a plein de façons de parler d'identité aussi.
Il y a l'idée aussi toujours chez vous de raconter des histoires drôles, Fabrice Eboué.
Ouais, et ça, je pense, on a parlé pudeur au départ, et je pense que ça vient de ça. J'ai une réelle pudeur. Mais, et quand je vous disais mon radicalisme, quand je vous parler de mon amour de la vanne et du rire, c'est parfois même handicapant dans la vie. On parlait de la timidité de Georges Brassens juste avant, c'est mon cas, moi je suis un grand timide, et c'est facile de tout mettre sous le tapis de l'humour, mais à un moment ça devient même pervers dans vos relations. Moi j'ai des amis qui me reprochent mon manque de premier degré, parfois ce qu'ils peuvent voir comme un manque d'empathie, alors que c'est plus une façon de tourner les choses parfois pour ne pas les voir.
On l'a dit, un petit peu de serial killer en vous, physiquement. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez drôle?
On ne sait pas qu'on est drôle. Par contre, on prend vite goût au rire des autres.
Oui, vous dites que c'était une arme de séduction pour vous, très jeune.
Bah oui, c'est une arme de séduction de fait, parce que j'ai toujours dit c'est très difficile d'être beau et drôle. non mais c'est difficile parce qu'une fois qu'on est beau, tout est fait. Et d'ailleurs on le sait sur les premières années de collège, quand on connaît ses premiers émois, ceux qui sont plébiscités, c'est généralement ceux qui sont le mieux fait, le mieux bâti. Et ensuite on développe autre chose, on se dit bon sur le terrain de la beauté, ce sera pas moi, il va falloir autre chose. Et là on commence parfois à développer de l'humour parce que là, les regards se tournent vers vous.
Puis il y a aussi quand même, mais c'est important, l'envie de séduire, toujours.
Mais ça, c'est en permanence. Là, quand on se parle, j'ai envie de vous séduire, vous avez envie de me séduire, on a envie de séduire nos auditeurs.
Non, moi, ça va, là.
mais voilà, c'est important de séduire. Toutes les relations sociales sont basées là-dessus.
On parle de séduction et de mots. C'est la tirade d'un homme qui séduit par les mots que vous avez choisi de nous lire ce matin, la tirade finale de Cyrano, dans la pièce d'Edmond Rostand. On vous écoute?
Oui, tout à fait. Vous m'avez pris. Alors, je l'ai connu par cœur il y a un temps, mais là, alors ils me l'ont fait démarrer. Là, oui. Alors c'est la fin, vous savez. Hein, c'est le. Il est en train de mourir. Roxane est là. Il est parti la rejoindre au cloître. Et puis il vient de lire la lettre qu'il avait écrite pour Christian. Et puis là, elle a tout démasqué. C'est lui, sauf qu'il est en train de mourir. Hein. Le laquais, vous savez, qui lui fait tomber cette bûche sur la tête.
Oui.
Et puis là, Brassens commence sa tirade.
Brassens commence sa tirade.
Brassens. se commence à dire Cyrano. Et on, puisqu'on a parlé de celui qui n'a pas le physique, mais qui séduit par les, par son humour, par le riposte. J'aurais aimé la commencer plus tôt, c'est dommage. Voilà. Elle vient. Alors ça commence normalement. Je vous le fais rapidement. Je sais pas si je m'en souviens. J'ai pas tout le texte là. Je sais pas si. Mais ça fait. Il est trop tard, cousine. Je vais m'en aller là-haut dans la lune opaline. Plus d'un être que j'aime, il doit être exilé. Plus d'une âme que j'aime, il doit être exilé. Je retrouverai Socrate et Galilée, philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien. Grand voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Voilà, et donc ça commence comme ça, et là je vous lis parce que j'ai honte de pas m'en souvenir par cœur, et là j'ai le texte, je crois qu'elle ose regarder mon nez, cette carte. Ah non! Elle vient, je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Et oui, ils me l'ont coupé, excusez-moi, je n'aime pas ça, mais on ne coupe pas ça. Ah voilà, ça fait ça. Donc la rime, j'ai pas tout, mais je retourne. Ne me soutenez pas, non, non, rien, rien que les arbres. Elle vient, je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Ah mais, puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre, et l'épée à la main. Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes mille, je vous reconnais là, tous mes vieux ennemis, le mensonge. Tiens, tiens, les compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pactise. Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose, arraché. Il y a, malgré tout, quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est...
Ton panache.
Mon panache.
Ça tient à quoi pour vous le panache, Fabrice Eboué?
Ah bah, pourquoi cette pièce de théâtre est la plus grande pièce de théâtre de tous les temps? Parce que elle raconte tout, et elle raconte tout ce qu'on vient de se raconter depuis le début. Elle raconte celui qui veut rester libre, qui refuse de penser par les autres, de penser par un groupe. Elle raconte son panache, voilà, à quelqu'un qui va aller jusqu'au bout des choses, qui ne va jamais, bah voilà, qui ne va jamais être dans les compromis, qui va jamais être dans le mensonge, donc qui va essayer de pousser jusqu'au bout son individualisme, son identité. Ça, c'est super intéressant. Mais non, pourquoi c'est la plus grande pièce de tous les temps? Parce que en plus ça parle totalement de mon art, c'est-à-dire il faut oser, et le type ose aller jusqu'au bout. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Alors merci Fabrice Eboué d'avoir osé ce matin et d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Barbac avec Marina Foïs, Virginie Hoc, Jean-François Carré sort demain. C'est une comédie qui ose justement